Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 juillet et nous allons parler de Hacking Team. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Vladimir Kola.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Salut.
Nicolas Ruff.
Hello.
Jérôme Notin.
Bonjour.
Arnaud Soulier.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Vladimir, Hacking Team, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette société et nous expliquer ce qui s'est passé?
Alors, Hacking Team est une entreprise italienne donc qui est à Milan, d'une quarantaine de personnes, et qui est spécialisée dans la sécurité, donc à la fois dans l'audit de sécurité type pentest, mais plus particulièrement dans la réalisation de codes offensifs, donc de trojans de backdoor plutôt étatiques, et la construction d'équipements d'infrastructures de communication. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait violemment poncer complètement. Et en gros, toutes leurs données sont sorties, ont été publiées sur Internet, ce qui représente en gros un total de 400 gigas de données dans lesquelles on retrouve tout. Alors tout, c'est vraiment étoile. Ça va des fichiers PST de leur mail à tout compte, leur partage de fichiers, leur certificat, leur mot de passe, le code de leur Trojan sur toutes les plateformes, enfin la totalité, quoi.
Et en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait juste que tout est sur Internet, mais personne ne sait comment le ou les pirates sont rentrés, non ?
Alors, apparemment, c'est celui qui a annoncé avoir piraté Hacking Team serait celui qui a aussi piraté Gamma Group donc l'année dernière. Je crois que c'était en septembre. Et donc Gamma Group, c'est l'entreprise qui développait le Trojan FinFisher utilisé par le Bahreïn, le Qatar, etc. Et qui également s'était fait pirater. Donc là, par contre, c'est juste 40 gigas de données qui avaient été publiées, mais dont la majeure partie des données était chiffrée par PGP. Donc au final, il n'y avait pas grand-chose. Il y a juste la partie wiki avec un outil de support qui était non chiffré, qui permettait de connaître en gros la liste des clients.
Bah, a priori, un des mecs de Hacking Team là aurait dit aujourd'hui qu'il considérait que c'était soit un État, soit une mafia qui était à l'origine du fait qu'il soit poutré. Donc, bon.
Si tu veux dire que c'est une appétit, c'est
ah, non. Pour les Chinois.
Non, mais là, c'est facile. Forcément, il faut qu'ils trouvent une explication pour survivre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit pour qui ils travaillaient, on voit leurs rapports. Et on voit tout sur eux, parce qu'il y a même les données ressources humaines qui ont fuité.
Oui, tu as les photocopies de leurs cartes d'identité, leurs adresses, enfin tu as tout.
Et les mots de passe absolument ridicules qu'ils utilisaient aussi, chiffrés. Ouais.
Extrait de casier judiciaire.
Ce qui fait que l'un des ingénieurs principaux de l'entreprise, lundi matin sur Twitter, a dit « Non, c'est pas vrai, téléchargez pas le torrent, ça contient des virus. » Bon, effectivement, ça contient des virus, mais c'est les virus qu'ils développent eux. Mais quelques minutes après, comme son mot de passe Twitter devait être assez pourri, il était dans la liste publiée, le Twitter a été piraté et d'autres commentaires ont été envoyés, puis il a été fermé.
Bon, est-ce que c'est une fatalité des entreprises de sécurité de se faire pirater? Parce qu'en France, il y a quelques exemples qui me semblent.
Bon, finalement, comme toutes les entreprises, hein, Sony s'est fait pirater l'année dernière, c'est l'entreprise de sécurité, donc non, c'est Toulouse. Surtout si on compare à Gamma Group, qui était l'entreprise allemande. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Hervé, il y a un petit côté un peu préjugé par rapport à l'origine des gens, mais c'est vrai que la Gamma Group, la boîte allemande, tout était hyper carré, chiffré en GPG, etc. Donc finalement, ce qui a fuité, il n'y a pas eu grand-chose. Enfin, de déchiffré, on a le contenu, mais chiffré. Alors que pour Hacking Team, boîte italienne, on va dire latine, tout était en clair, enfin c'est la fête du slip, quoi. Il y a des fichiers Excel avec tous les mots de passe, enfin c'est tous leurs serveurs virtuels avec login et mot de passe.
Bah, un des mails du patron justement qui répondait à une demande interne, le mec disait on n'a rien à cacher donc on ne va pas utiliser du GPG par exemple.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'actionnable qu'on peut utiliser c'est all shit?
Peut-être que ça va un petit peu changer cette mentalité qui consiste à avoir honte des compromissions, c'est pas une maladie honteuse, ça peut arriver à n'importe qui.
Attention, hein, c'est pire que c'est pas une maladie honteuse. Ils ont travaillé pour des gouvernements, mexicains, italiens, et si ils ont fait des logiciels qui étaient soumis à du confidentiel ou secret dans le cadre de ces pays, dans ces pays-là, c'est du pénal, et donc il va y avoir énormément de pays sur la planète où ils vont plus pouvoir voyager au risque d'aller en prison.
Enfin, là, c'est quand même un peu louche leur activité. Je veux dire, c'est pas. Enfin, j'ai cru comprendre qu'en fait, ils passaient par une boîte qui prétendait revendre des prestations de restauration pour pouvoir vendre à des gens qui ne voulaient pas que ça apparaisse sur les factures. Donc, clairement, quand tu as un contrat avec un appel d'offres public, etc., et que tu dis que c'est du confidentiel de défense ou du secret défense, ok, mais quand tu passes par une fausse boîte pour acheter en liquide un logiciel, qui a vraiment une mention de classification dessus.
Je sais pas, où est-ce qu'on voit que c'est dans les documents qui ont fuité qu'on voit qu'ils se faisaient payer en liquide?
Non, ça j'ai pas. Moi j'ai pas lu les documents, hein. Tu sais que je suis pas sûr qu'il soit légal de télécharger le torrent en France, donc je laisse les autres le faire. Mais en tout cas, ça a buzzé sur Twitter toute la journée, donc je me fie, parle des analyses que les gens font sur Twitter. Ils font gagner un temps assez précieux en fait.
Oui, parce que vu la quantité de documents, c'est impossible de tout regarder soi-même. En plus, la plupart sont en italien. Donc, à traduire, c'est un peu long.
Ouais, et puis je pense que c'est le genre de choses, si tu veux vraiment extraire l'information utile, il faut y passer du temps. Il y avait quelques trucs rigolos. J'ai vu qu'ils avaient par exemple la compte de support chez Bluecoat. Et en fait, du coup, le login mot de passe était encore actif, donc les gens sont logués, ils ont mis n'importe quoi. Il y a des trucs pas très très clairs aussi, il y avait des films pédophiles et autres, donc je sais pas trop si c'est le patron qui est pédophile ou s'ils essayent de piéger les gens en ayant des trucs qu'ils mettent sur les PC des victimes.
Après, c'est bizarre parce que dans le code, tu avais un chemin en dur avec un fichier effectivement qui se terminait par pédo, je sais pas quoi, .mpeg.
Donc, c'est pas pédophile. Mais le truc rigolo, quand même, dont on n'a pas parlé, c'est que leur logiciel, il était backdoré.
Mmh. Oui.
Et ça, c'est énorme.
C'est une porte d'entrée. Ouais. Il y avait la possibilité de réaliser des injections SQL et donc de récupérer l'accès.
Est-ce que
doit-on faire confiance à un éditeur de backdoor?
Alors, comme tu le faisais remarquer, Nicolas, il y a un truc qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils pirataient eux-mêmes tout ce qui était Office, Windows, ça c'est énorme. Donc ils n'avaient pas peur non plus de se prendre des trojans, quoi.
Ouais. C'est pas parce que t'es bon en attaque que t'es bon en défense. Hein.
Bah la preuve, ouais, tout à fait. Ouais. Non mais bon, ça reste une des bases quand même.
Ouais.
Avec, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, des mots de passe qui étaient complètement ridicules.
Enfin. C'est que normalement, quand tu connais bien l'attaque, tu dois mieux être mieux en capacité de te défendre. C'est assez paradoxal quand même.
Je ne sais pas s'ils se sentaient forcément cibles d'une attaque potentielle. Les gars étaient à fond dans l'attaque. Je ne sais pas s'ils imaginaient un jour pouvoir être pris comme cible. En plus, c'est une boîte qui n'était pas forcément très très connue de la scène. Un peu critiquée par Amnesty International et Reporters sans frontières, mais au-delà de ça.
Mais on voit bien qu'ils n'avaient véritablement aucune infrastructure pour être protégés. Le fait qu'ils se fassent simultanément voler aussi bien les rapports, les logiciels que les données purement RH, c'est que tout est sur un réseau à plat, ou alors la fuite est de l'intérieur. Mais je veux dire, on n'a vraiment pas du tout l'impression qu'ils aient fait attention à la sécurité. Alors bien sûr, souvent les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais quand même, au bout d'un certain nombre d'années, on fait un minimum attention.
Je pense qu'il devait considérer qu'ils étaient des sites privilégiés. Enfin,
Sinon, ils sont stupides. Les boîtes de sécurité qui travaillent pour des États sont des cibles bien meilleures que les États pour lesquels ils travaillent.
Ils ne devaient pas certifier sécurité ou je ne sais pas quoi en tant que provider, en fait. Ils devaient avoir un petit label, en fait.
Quand un État achète un logiciel pour espionner, eh ben, l'idéal, c'est d'avoir mis ta porte dérobée dans ce logiciel. Donc la société qui développe ce logiciel, c'est clairement la meilleure cible, et tous leurs clients devaient être conscients du fait que eux, en tant que développeurs du logiciel malfaisant, ils devaient être ceux qui étaient, ils devaient faire le plus attention.
Tu veux dire que peut-être qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une backdoor dans leur logiciel?
En général, quand tu audites un logiciel de ce genre-là, il y a plusieurs backdoors de plusieurs sources mises à des moments différents par des personnes différentes. Donc, tu as la backdoor du développeur, la backdoor de la société en elle-même, la backdoor d'un tiers qui est intervenu à un moment donné. Puis ensuite, tu vois un gouvernement qui demande à remettre une backdoor parce qu'il y a un intermédiaire qui veut sa backdoor. Mais attendez, vous savez très bien que ça marche comme ça. Et quand tu audites le logiciel à la fin, tu trouves 6 ou 7 backdoors qui ont 6 ou 7 origines différentes.
Ce qui est là aussi assez extraordinaire, c'est que je crois que le nom de la fonction, c'était backdoor. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre backdoor ? C'est d'une débilité première, quoi.
Les gens n'aiment pas utiliser la backdoor du voisin quand ils la connaissent, ils veulent la leur.
Il y avait peut-être aussi un excès de confiance de la part des gars.
Ouais.
C'est comme les investisseurs qui gagnent beaucoup d'argent, les traders qui font la fête le soir, prennent de la coke, qui ont plein de filles, etc. C'est la fête. À un moment, excès de confiance et voilà.
Ça, c'est un schéma des années 80. Mais...
Bon, bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ?
Si, moi, j'ai très récemment, il y a une heure ou deux, là, j'ai vu un document qui est assez extraordinaire. Qui est ils ont mandaté donc Kroll, qui ne sont pas des enfants de cœur non plus, hein, qui travaillent avec beaucoup de services américains. Pour justement surveiller, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais le commercial de la zone Nord-Amérique, enfin en tout cas un des commerciaux, qui travaillait en même temps donc, pour Hacking Team, mais également pour les concurrents, et en fait les boîtes prenaient contact avec ce type-là qui avait la casquette Hacking Team, et derrière les types revendaient la solution qui permettait de se protéger a priori d'Hacking Team. Donc, et ils y sont allés à la mode vraiment barbouze avec rendez-vous dans les bars, écoute, le type à la table d'à côté qui est un complice du mec de Kroll qui fait l'interview, enfin la rencontre. C'est assez hallucinant ce document, il est vraiment très drôle.
Vu le business de la boîte et vu les clients qu'ils ont, je pense qu'il y a énormément de documents très drôles, de mails très drôles.
Ouais.
On est loin.
Là, il est tout chaud, donc c'est vraiment amusant, quoi. Ouais, donc ça montre la moralité des commerciaux qui bossaient pour cette boîte, qui sont capables donc de vendre en même temps et au même client, ou en tout cas aux clients qui sont ciblés, donc les solutions offensives et les solutions défensives.
Ouais, c'est un peu le principe de la sécurité.
Mais je pense aussi que
personne dans l'absolu.
Le problème de Hacking Team, c'est qu'ils étaient malgré tout visibles. Or, les sociétés qui développent ce type de logiciel, en général, ils n'ont pas besoin d'être visibles, dans le sens que personne ne sait, même si certains connaissent ces sociétés, personne ne sait qu'elles réalisent ce type de développement. Regardez chez nous en France, vous ne savez pas, ou peut-être vous savez, mais vous ne le direz pas à l'antenne, qui réalise ce type de développement. Et ce ne sont pas des gens qui en font état publiquement, ils n'ont pas besoin vis-à-vis de leurs clients. Et donc, ils sont beaucoup plus compliqués à trouver, à identifier et à connaître le nom des développeurs comme cible.
C'est là que je ne suis pas d'accord avec toi, Hervé. Tu fais un peu d'intelligence économique. Il suffit juste que tu regardes la liste des exposants à Millipol avec les catégories dans lesquelles ils officient. Et puis, c'est bon, tu as la liste des boîtes.
Je suis désolé, ils ne sont pas aussi visibles que étaient les Italiens ou les Allemands.
Ah, les boîtes françaises font plutôt effectivement du défensif sur un côté vitrine.
Et puis il y a des petites sociétés françaises, je suis désolé, elles ne sont pas à Millipol. Hein.
C'est vrai.
Tu as des entreprises unipersonnelles même en France. Enfin, tu as des gens qui vivent dans leur cave à 2-3, qui font des exploits. Après, si tu veux commercialiser, contractualiser, traiter avec des gouvernements et autres, tu as quand même besoin d'un minimum de structure.
Intermédiaire.
L'intermédiaire lui-même, s'il se fait foutrer, toute sa boîte mail, te donne vite fait la liste des gens avec qui il travaille. À moins qu'il donne rendez-vous dans des bars, qu'ils échangent les clés USB dans des boîtes aux lettres mortes, mais sinon.
D'autres choses ?
Moi, je pense qu'en conclusion, il faut rappeler à tout le monde que personne n'est à l'abri, que ça arrive à tous, y compris aux plus méchants d'entre nous.
Bah, ça me semble une très très bonne conclusion. On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Salut. Au revoir.
Ciao.